France Culture et les 16h, tout de suite, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Comment vivre avec un trouble psychique ? La santé mentale fait encore largement partie des tabous. Dans le même temps, les troubles psychiques sont en forte progression. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé estime que le nombre de personnes souffrant de dépression ou d'anxiété a augmenté de 50% entre 1990 et 2013 dans le monde. Il serait passé de 416 à 615 millions sur cette période, ce qui porte à environ 10% la part de la population mondiale affectée par des troubles mentaux. Et dans les situations d'urgence, comme les catastrophes, les guerres ou les attentats, l'OMS estime qu'une personne sur cinq est touchée par la dépression ou l'anxiété. Une étude qui vient d'être publiée par le journal The Lancet Psychiatry évalue le coût pour l'économie mondiale de ces deux troubles à 1 milliards de dollars par an. Alors qu'ils donnent souvent l'impression de ne pouvoir être soignés efficacement, cette étude montre que chaque dollar investi dans le traitement de la dépression et de l'anxiété en rapporte 4 sous la forme d'amélioration de la santé et de la capacité de travail. Mais parallèlement aux soins encore mal connus, c'est l'ensemble de la société qui peut améliorer sa prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques en évitant une stigmatisation basée sur des idées reçues fausses. C'est justement l'objectif d'une exposition qui s'est ouverte à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris le 5 avril et dont France Culture est partenaire. Les troubles psychiques peuvent-ils être soignés ou surmontés par les personnes qui en souffrent ? Quelle assistance peuvent-elles recevoir, aussi bien dans le milieu médical que dans celui de la famille ou du travail ? Comment vivre aujourd'hui dans la société lorsque l'on est confronté à un trouble psychique ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Aude Caria, qui est directrice du PSICOM, organisme public d'information, de communication et de lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Aude Caria est psychologue clinicienne. Virginie Lacombe est muséographe, chef de projet en charge de l'exposition « Mental désordre » à la Cité des sciences et de l'industrie. Marie-Aude Morterolle est atteinte de troubles bipolaires depuis l'âge de 25 ans. Elle est actuellement stabilisée depuis 6 ans et elle témoignera donc de son expérience en la matière. Antoine Pellissolo est psychiatre, chef de service au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor à Créteil, professeur de médecine à l'université Paris-Est et auteur de l'ouvrage intitulé « Retrouver l'espoir, abécédaire de psychiatrie positive » publié en mars 2016 chez Odile Jacob. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques, tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. Antoine Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Alors l'une des difficultés que posent les troubles psychiques réside sans doute dans leur définition. Alors, comment essayer de les qualifier d'une façon assez général?
Alors, de manière générale, les troubles psychiques sont les maladies ou les affections dont la souffrance principale est psychique. Et alors, ce qu'on appelle le psychisme, c'est à la fois la pensée, la manière de penser les choses, de raisonner, la manière de sentir les choses au niveau émotionnel et la manière de se comporter. Donc, ça peut paraître très large, mais il est fait, et de fait, les troubles psychiques, c'est à la fois des phobies, c'est à la fois des troubles de l'humeur. On va parler de la dépression, du trouble bipolaire, ou des troubles quasiment qui touchent à l'identité de soi ou à la perception de l'identité de soi, comme la schizophrénie. Donc c'est un champ très large. On peut aller même jusqu'aux addictions, qui font pour nous aussi partie des troubles, en partie des troubles psychiques. Donc c'est effectivement large, mais avec comme point commun le fait d'avoir comme principale souffrance une souffrance psychique, ce qui se retrouve dans d'autres maladies, hein, plein de maladies classiques en médecine qui font souffrir psychiquement, mais dont c'est pas le motif principal. Dans les troubles psychiques, c'est la principale souffrance, avec souvent aussi des souffrances physiques, mais qui sont plutôt secondaires dans ce cas-là.
Une difficulté peut-être de définition, c'est justement aussi le nombre de maladies, de troubles mentaux qui sont référencés par la Société américaine de psychiatrie, qui se charge de ce... de cette liste, hein, sous la dénomination DSM, et qui compte 400 différentes définitions de troubles mentaux, c'est beaucoup.
Oui, alors c'est beaucoup, mais c'est très artificiel. D'ailleurs, il n'y a pas que le DSM, il y a aussi la classification de l'OMS, hein, qu'on utilise à peu près de la même façon, qui ressemble beaucoup. Donc c'est un découpage en petites tranches, qui finalement pas beaucoup de sens, si on regarde les 450 effectivement catégories. Si on fait des catégories beaucoup plus, on va dire, lisibles, on en a une dizaine, quoi, à peu près comme ça. Donc c'est pas non plus extravagant. On a essayé de chercher, des chercheurs, et puis les cliniciens essaient d'être plus précis, donc vont définir des types ou des sous-types de certaines affections sur une base pas toujours très objective, mais enfin c'est une façon d'essayer de mieux comprendre et de mieux traiter des formes de certaines maladies. Mais je vous dis, les grandes catégories, les troubles de l'humeur, les troubles psychotiques, les troubles anxieux, sont des catégories relativement accessibles quand même à la compréhension.
En mentionnant au passage que l'homosexualité a fait partie du DSM à une époque.
Jusqu'aux années 70, effectivement.
Oui. Ce qui prouve que ça évolue aussi.
Heureusement.
Heureusement, dans ce cas précis. Mario de Morterolles, bonjour.
Bonjour.
Donc, merci de témoigner en tant que patiente dans cette émission. Vous avez 50 ans et vous avez souffert de troubles bipolaires à partir de l'âge de 25 ans.
Oui.
C'est bien cela. Il s'agit de ce qu'on nommait auparavant la psychose maniaco-dépressive, parce que pour rajouter un peu à la complexité, les intitulés de ces maladies, les noms de ces maladies évoluent avec le temps, changent parfois. Alors quels sont les symptômes de ce trouble?
Bah, écoutez, les symptômes, alors d'une personne à l'autre, ils peuvent varier, mais en tous les cas, pour ce qui me concerne, moi, ça a commencé par des phases autour de l'âge de 25 ans, des phases dépressives très très intenses, avec une estime de soi totalement nulle, avec des troubles du sommeil, avec des tentatives de suicide. Enfin voilà, tout va très très mal, on fait rien de la journée, enfin voilà. Ensuite, on s'en remet, ça prend du temps. Et puis après, il y a des phases, heureusement, de répit, on souffle un peu. Et ensuite, on peut avoir des épisodes qu'on appelle maniaques, moi je les appelle up, où là, à l'inverse, tout va très très vite, on dort 2 heures par nuit et on a une pêche d'enfer, on a des projets fous, on est très loquace, le cerveau va très très vite, on écrit des mails de 10 pages sans aucun problème à 3 heures du matin. Enfin voilà, ça c'est les phases up qui sont pas très faciles à gérer. Généralement ça finit souvent en hospitalisation parce qu'il faut... Il faut quelques molécules pour faire redescendre un petit peu la cocotte minute. Mais dans ces moments-là, paradoxalement, on se trouve très très bien. On voit pas l'intérêt d'une hospitalisation au premier abord parce que voilà, tout va bien pour nous. Mais bon, voilà, ça c'est des moments très typiques de bipolarité.
Alors pour vous, les conséquences, c'est aussi l'arrêt de votre profession.
Alors moi, malheureusement, j'étais institutrice pendant une quinzaine d'années, mais du coup, effectivement, à cause de ces épisodes un peu trop successif, d'arrêt en arrêt en arrêt, ça s'est fini par... je ne travaillais plus parce que c'était trop invalidant. Et voilà, quand on fait ce métier-là, c'est pas très agréable de pas être devant ses élèves. Et voilà, donc j'ai malheureusement dû arrêter. Bon, aujourd'hui, j'ai à nouveau d'autres projets de retour à l'emploi que j'espère concrétiser un jour, très prochainement. Donc voilà. Mais enfin, ce que je veux juste dire, c'est que on peut être bipolaire et travailler. Ça, c'est important de le signaler parce que voilà, moi, j'ai dû arrêter ce métier, mais on peut tout à fait exercer une activité professionnelle malgré la maladie si on prend les moyens de se soigner correctement.
Très bien, on va y revenir évidemment sur justement ces moyens, ce parcours qui vous a permis de surmonter cette maladie. Aude Caria, bonjour.
Bonjour.
Donc vous dirigez le PSICOM, peut-être en deux mots, vous expliquer
oui,
de quoi il
tout
s'agit.
Tout à fait. Le PSICOM, c'est un organisme public, donc il est payé par des fonds publics, d'information, de lutte contre la stigmatisation dans le domaine de la santé mentale, qui existe depuis plusieurs années. Et notre expertise est vraiment spécifiquement sur cette thématique-là. La particularité, c'est que nous travaillons nos actions, les outils que nous développons, avec des personnes directement concernées. C'est-à-dire, ce n'est pas une équipe d'experts qui décide. On s'entoure de personnes, dont Mario d'ailleurs, qui vivent directement avec des troubles psychiques, mais aussi des proches qui accompagnent, et puis des professionnels. Et on va construire, par exemple, des brochures ou des outils de lutte contre la stigmatisation en croisant ces différents regards. Et je pense que c'est pour ça aussi que on a été sollicité par la Cité des Sciences pour l'exposition, puisque c'était aussi le cœur de l'idée de l'exposition, de permettre ce croisement de regards.
Alors justement, cette exposition, Virginie Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-commissaire de cette exposition, baptisée Mental des Ordres, qui vient donc d'ouvrir le 5 avril à la Cité des Sciences de la Villette à Paris. Pourquoi une exposition sur un domaine qui, a priori, n'est pas le plus facile à mettre en scène ?
Eh bien, justement. En fait, le choix du sujet, ça s'est fait donc en relation avec deux autres musées européens, le musée Eureka en Finlande et le musée Scienza Viva au Portugal. Et c'est Eureka qui a soumis cette idée de produire une exposition sur les troubles psychiques. Et nous, tout de suite, on a été très emballés par cette idée, tout en sachant que c'était un sujet très difficile à traiter et qui devait rester grand public et donc pas être trop spécialisé, qui devait rester grand public pour sensibiliser en fait le plus grand nombre à cette question, qui est vraiment une question de société, qui touche tout le monde de près ou de loin. Voilà.
Alors comment vous avez résolu cette équation compliquée de mettre en scène des troubles sans rentrer dans des considérations trop médicales ou psychiatriques et donc de sensibiliser le public? Sous quelle forme ça a pu se mettre en scène?
Alors en fait, l'exposition, elle est constituée d'une vingtaine d'éléments d'exposition, avec des éléments qui vont traiter plutôt de ce qu'on sait ou de ce qu'on croit savoir sur les différents troubles psychiques, et puis des éléments qui vont plus traiter de la manière dont on vit quand on souffre d'un trouble psychique. Donc là, ce sont des éléments plus immersifs où on va proposer à nos visiteurs de vivre des expériences pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut faire au quotidien de vivre avec un trouble psychique. On a recueilli des témoignages, dont le témoignage de Marie-Aude qui est ici également, donc des personnes qui ont accepté de témoigner, de parler de leur quotidien, comment elles vivent avec leurs troubles. Et puis il y a également des éléments dans cette exposition qui proposent des outils de prévention, comment prendre soin pour chacun d'entre nous, comment pouvoir prendre soin de sa propre santé mentale. Donc ce sont des outils à la portée de tous, comme savoir exprimer ses émotions, les identifier aussi chez les autres, voilà, savoir lâcher prise.
Oscaria, cette exposition a pour but en particulier d'augmenter la connaissance du grand public vis-à-vis de ces troubles. Vous parlez souvent de stigmatisation, c'est une des raisons d'être de votre organisme,
tout à fait,
de lutter contre cette stigmatisation. Comment elle se traduit aujourd'hui ?
Mais en fait, je pense que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ce n'est pas un problème récent. Je veux dire, la folie, elle est intrinsèque à l'être humain. Et finalement, l'image du fou habite notre imaginaire collectif depuis des millénaires. Si on se réfère par exemple à la mythologie grecque, vous avez plusieurs héros de la mythologie grecque, je pense à Héraclès par exemple, qui, pris de folie, va tuer sa femme et ses enfants. Donc très très loin dans l'imaginaire collectif, on a cette association entre folie, danger et crime. Ce qu'on peut appeler le noyau dur finalement de la représentation de la folie. Et on voit que cette représentation, ça génère de la peur et elle infiltre en fait toute la société depuis des années. Alors quand on se fixe comme objectif de lutter contre la stigmatisation associée à cette représentation, c'est vrai que c'est un peu le mythe de Sisyphe là du coup qu'on appelle, parce que c'est sans cesse recommencé. Et on a besoin aussi des représentations sociales. Elles sont utiles au niveau social. Donc en fait l'objectif, c'est plutôt de lutter contre les conséquences. Peut-être qu'on va pas pouvoir changer cette image de la folie qui est intrinsèque à l'être humain, qui est partagée au niveau universel, mais on va pouvoir agir concrètement contre les conséquences de ça, c'est-à-dire l'exclusion, la stigmatisation des personnes, l'exclusion de la société, des personnes qui sont identifiées comme vivant avec des troubles psychiques. Et dans ce sens-là, effectivement, il y a plusieurs pistes qui peuvent fonctionner.
On va y revenir. Antoine Pellissolo, comment vous jugez-vous aujourd'hui la position de la société par rapport à ce problème des maladies mentales? Longtemps, les solutions n'ont pas été d'une grande élégance, avec les hôpitaux psychiatriques qui étaient quand même assez proches d'une prison. Comment ça se passe aujourd'hui?
Alors, il y a beaucoup d'évolutions et surtout, on ne traite plus uniquement du même sujet. Ce que Aude Caria évoquait, c'est la folie. Et quand on évoque les hôpitaux psychiatriques, les asiles avant, c'est effectivement la folie au sens de ce qu'il y a de plus dur en termes de perturbation, d'incompréhension surtout. Je pense que les peurs, elles viennent de l'incompréhension. Je comprends rien de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, et donc il est différent de moi et donc ça me fait peur. Et en fait, maintenant, on sait que les troubles psychiques, c'est un peu ça pour certains cas, malheureusement, un peu extrême, dans lequel il y a une rupture vraiment de contact avec les autres ou avec la réalité, mais c'est aussi beaucoup, on a dit, énormément d'autres choses. Donc avoir des troubles de l'humeur, d'avoir des troubles de la peur, d'avoir des troubles de l'alimentation, ce qui veut dire qu'en fait on est tous concernés. Et je pense que la société là justement modifie petit à petit, on le voit avec cette exposition, son regard sur les troubles psychiques en disant on est tous concernés, on dit à peu près 20-25% de la population, ce qui veut dire ça peut être moi, ça peut être mon voisin, ça peut être quelqu'un de ma famille. Donc le fait de rejeter l'autre sous prétexte qu'il a un fonctionnement qui est différent du mien n'a pas de sens. Et donc le travail que la société essaye de faire, sûrement pas assez, c'est d'une part de mieux soigner, et ça vous avez raison, les offres de soins sont quand même, j'espère, plus accessibles, mais on continue à y travailler parce que il y a encore beaucoup de gens qui ont peur de ne serait-ce que d'aller voir un psy juste dans un cabinet. Donc il faut changer l'offre de soins, le rendre plus accessible, et puis aussi expliquer que chacun doit aussi accueillir éventuellement une personne au travail ou dans sa famille malgré une dépression, malgré parce que voilà, on a ça en commun. Et je crois que l'exposition montre très bien avec les expériences en question que avoir des hallucinations, bah en fait c'est pas très on arrive à le reproduire assez facilement avec une petite machine qui est quand même assez simple, et on a tous sûrement vécu des expériences, pas exactement celle-là mais qui se rapprochent de ça. Ce sont pas des extraterrestres les personnes qui souffrent de troubles psychiques.
Quand vous dites 20 à 25%, ça représente quoi? C'est les gens touchés par ces...
L'ensemble de ce qu'on appelle les troubles psychiques. Ça va de l'anxiété excessive, donc quelque chose qui est anormal, jusqu'aux troubles psychotiques, mais donc c'est une gamme de choses qui encore une fois peuvent nous concerner. Quasiment tout ce qui existe dans les maladies, en fait, on peut l'avoir vécu au moins une fois, de manière évidemment limitée dans le temps et en termes d'impact. Mais vraiment, c'est juste une des fonctions d'ailleurs de notre esprit qui est soit excessive, soit insuffisante, soit qui déraille un petit peu dans son fonctionnement.
Un dérèglement.
Voilà, qui est un dérèglement alors plus ou moins important, plus ou moins, je dirais, installé. Mais je crois que le contact avec des personnes qui sont malades, ou ce type d'exposition, ou tout ce qu'on peut avoir comme témoignage, ça montre bien que on est des êtres humains fragiles, malheureusement, effectivement, depuis la nuit des temps, parce que le cerveau est un appareil hyper complexe, il suffit de peu de choses pour le dérégler, mais que il serait vain de vouloir éloigner les fous et d'éloigner les personnes différentes, parce que de toute façon, on est tous dedans.
Alors, dépression, anxiété, qui sont citées par l'OMS et par cette étude du Lancet Psychiatrie, semble progresser énormément au cours des dernières décennies. Est-ce que vous le reconnaissez, vous l'observez dans votre pratique?
Oui, alors c'est toujours difficile de savoir si c'est vraiment une augmentation de ces maladies-là ou le fait que leur expression est plus facile. Je pense que depuis quelques années, effectivement, on explique que le stress peut être très douloureux, que la dépression peut être quelque chose de très douloureux. Donc, pour certaines personnes, c'est plus facile de le dire. Alors après, tout dépend comment on fait les diagnostics et comment on compte, mais il y a sûrement un phénomène quand même qui est plus lié à l'attention qu'on porte à ces troubles-là et je dirais à l'expression de ces troubles-là que vraiment d'une multiplication gigantesque des symptômes eux-mêmes. Quoique, c'est vrai que probablement, en fonction du contexte social, la souffrance, notamment sociétale, provoque une souffrance. C'est probablement des personnes qui sont quand même vulnérables, au départ, avec des profils différents. Donc c'est... Bon, on peut dire que ça augmente. Il y a de toute façon une augmentation de la demande, et je crois que c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on a des solutions, c'est ça que vous disiez par rapport aux investissements possibles. C'est des troubles qui se soignent plutôt très bien, à la fois l'anxiété et la dépression. Donc ça serait dommage de ne pas à la fois identifier et proposer ces soins aux personnes.
France Culture, Science Publique, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui autour de la question comment vivre avec un trouble psychique avec nos invités. Aude Caria, psychologue, clinicienne, directrice du Psychom. Virginie Lacombe, muséographe et chef de projet en charge de l'exposition Mental Désordre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Marie-Aude Morterolle, atteinte de troubles bipolaires depuis l'âge de 25 ans. Et Antoine Pellissolo, psychiatre et chef du service au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor à Créteil. On va revenir justement à la question du diagnostic, puisque pour reprendre un peu le parcours que vous avez réalisé, Marie-Aude Morterolle, comment ça s'est passé? Comment avez-vous découvert que vous étiez atteinte de cette maladie, donc le trouble bipolaire?
En fait, moi, les soins, j'ai d'abord, avant d'aller voir un psychiatre, j'ai d'abord consulté une psychothérapeute. Donc, j'ai commencé un travail autour de la parole, qui était pour moi très important. Et c'est tout en faisant ce parcours-là que je me suis ensuite adressée à un psychiatre quand les symptômes étaient trop forts. Et j'allais dire, c'est lui qui, au bout de moult années, une dizaine d'années donc, a pu poser ce diagnostic de bipolarité. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui a statué. Mais bon, quelque part, une fois qu'on vous le dit, ok.
Ça change quelque chose. Ça,
voilà, le truc, c'est que vous avez dû dire, mais du coup, maintenant, on fait quoi? Et est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que le traitement va être adapté? Et c'est ça qui a beaucoup changé, c'est que quand vous êtes que en phase dépressive, on vous donne, enfin, vous êtes considéré comme unipolaire. Or, c'était pas le cas. J'étais bien bipolaire. Et du coup, le traitement n'était pas forcément le bon. Et à partir de ce moment-là, on a pu chercher la bonne molécule, tout en continuant le travail sur le en thérapie, qui était vraiment pour moi très important. Et du coup, petit à petit, les choses ont pu évoluer et en tâtonnant, on a trouvé le traitement le plus. Quand on dit traitement, faut pas imaginer qu'on est complètement shooté avec 3 tonnes de médicaments. Quelquefois, 1 ou 2 comprimés par jour peuvent suffire. Le tout, c'est de trouver les bons. Donc voilà. Mais
donc quand même une longueur d'une durée très très importante pour arriver à cette conclusion et à ce bon traitement, enfin le traitement le plus adapté à ce que
vous avez. Long, c'est vrai.
Antoine Pellissolo, ça paraît long.
Oui, alors c'est toujours difficile à expliquer parce qu'on se dit, ça, quand vous l'expliquez vous, en tout cas maintenant, ça paraît simple. On a une dépression, on a une phase maniaque, comme on dit, c'est-à-dire d'excitation. Voilà, ça devrait être simple. Alors si ça l'est pas, c'est parce que d'une part, certaines personnes ont du mal à aller vers des professionnels quand même au début parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent pas bien ce qui se passe, d'où l'intérêt de l'information, donc de cette prévention qui passe par l'information. Et puis ensuite, les professionnels sont parfois quand même confrontés à des symptômes qui ne sont pas toujours aussi francs, en tout cas au début. Et donc ça met du temps, parce qu'au départ, on ne prend pas ça pour forcément une dépression, et puis ça met du temps aussi à s'installer de manière durable. Donc souvent, le diagnostic est fait tardivement, mais parce que aussi la maladie n'était pas complètement évidente au départ. Mais maintenant, on a quand même beaucoup progressé. Je pense que quand les médecins ont des doutes, ils peuvent avoir recours à des spécialistes. Là-dessus, je pense qu'il y a eu des progrès en France. C'est-à-dire que normalement, avec un bilan un peu approfondi, on arrive à déceler les choses plus vite et donc à les prendre en charge plus vite. Parce que vous avez raison, le traitement, qui en général est efficace, est très important à mettre en place rapidement, puisque ça évite des complications souvent importantes.
Aude Caria, est-ce qu'on peut aider les patients à peut-être justement mieux s'exprimer ou mieux analyser eux-mêmes ou pouvoir aider à ce diagnostic délicat?
Oui, tout à fait. Alors, je voulais revenir peut-être un peu sur les idées fausses justement dont on parlait, hein, parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses. Il y a une forêt d'idées fausses dans le champ de la psychiatrie. Et par exemple, dans les idées fausses, vous avez tout ce qui a trait aux les malades mentaux sont dangereux. Voilà, ça c'est une idée fausse. Parce qu'en fait, les personnes qui ont des troubles psychiques sont vulnérables et ont 12 fois plus de risques d'être victimes de crimes. Vous voyez, donc entre le mythe et la réalité, c'est très différent.
Le mythe, c'est celui que vous rappeliez, ou le fou, voilà. Quelqu'un qui tue tout le monde autour de lui.
On pense aussi sur la question de l'information. Il y a beaucoup d'idées reçues en disant, ça se passe, les soins, c'est forcément à l'hôpital psychiatrique avec des médicaments. Et c'est encore ça qui fait aussi obstacle, justement, comme le disait le professeur Pellissolo, à chercher des soins. Donc la question de l'information est importante ici, de savoir par exemple que plus de 80% des gens qui sont suivis par les services de psychiatrie le sont en ambulatoire, ne sont jamais à l'hôpital. Voilà. Et que les soins sont variés. C'est le médicament, certes, mais ça ne résume pas le traitement. La psychothérapie, le soutien social, l'entraide par les pairs, le rôle des associations de patients, le travail aussi comme la remédiation cognitive, la relaxation, ne pas séparer le corps de l'esprit. Voilà. Donc le niveau d'information est important. Et il y a aussi une information qui est importante à contrebalancer par rapport à une idée reçue, qui serait « fou un jour, fou toujours ». Hein, ça, c'est un peu un dicton qui s'assène comme ça et qui renforce aussi la peur que finalement un diagnostic psychiatrique c'est pour la vie. Et là encore, on a des études longitudinales qui ont été faites sur des cohortes de personnes ayant reçu un diagnostic de schizophrénie, par exemple, ou de troubles bipolaires, qui ont été suivies comme ça pendant 20 ans, 30 ans, pour voir l'évolution, et qui montrent que, contrairement à cette idée reçue, 50 à 70% des personnes se rétablissent. Voilà, se rétablissent, c'est-à-dire arrivent à vivre sans avoir une vie quasi normale, enfin normale, je sais pas ce que c'est qu'une vie normale, là, mais en tout cas une vie satisfaisante, comme évoquait Marie-Aude, au niveau social, affectif, éventuellement avec une activité, etc. À faire face, à faire avec les symptômes de la maladie, voire à ne plus avoir de problèmes. Mais pour arriver à ça, c'est vrai qu'il faut un ensemble de réponses coordonnées.
Alors c'est peut-être ça, Antoine Pellissolo, qui rend aussi les choses compliquées, c'est qu'il y a ces deux grandes voies qui sont la voie du médicament et la voie de la thérapie, de la psychothérapie, et que souvent elles sont opposées, voire antagonistes dans l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui. Comment vous voyez les...
Alors ça l'a été longtemps pour des raisons un peu dogmatiques. Il y avait des tenants, des hypothèses biologiques pures, assez rare, et des tenants des hypothèses psychologiques pures. Heureusement, maintenant, on a une vision d'ensemble qui est beaucoup plus intégrative, comme on dit, multiple, parce que il n'y a aucun doute sur le fait que les troubles psychiques sont toujours multidéterminés. Nous, on dit bio, psychosocial, ça veut dire la biologie, parfois quand même donc un terrain malheureusement propice. La psychologie, c'est tout ce qu'on a appris dans la vie, la manière dont on s'est construit, et le social, parce que vous parliez des thérapies, des médicaments, mais il y a aussi l'entourage qui joue un rôle majeur, et donc à une proportion variée évidemment selon chaque personne, mais ces trois facteurs sont impliqués dans la genèse des troubles, ou en tout cas leur déterminisme. Donc le traitement, c'est forcément avec des variantes, hein, évidemment, chaque personne a son profil particulier, mais c'est d'associer, en tout cas d'évaluer le besoin de ces trois approches-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a assez peu de contestations, enfin heureusement. Alors ça demande des moyens, malheureusement, il n'y a pas partout les dispositifs suffisants. Il y a aussi des personnes qui sont réticentes, donc notre travail, c'est aussi d'expliquer que le médicament, malgré tout, ça peut être utile, même si beaucoup de personnes sont réticentes, ou que faire un travail de psychothérapie, c'est aussi très utile, même si ça peut paraître compliqué. Il y a aussi une image, hein. Il y a une imagerie des médicaments, et puis il y a aussi l'imagerie de la psychanalyse, où en fait on va parler tout seul, enfin des choses qui sont parfois rebutantes. Donc tout le problème, c'est d'expliquer que tout ça est compatible, et puis surtout qu'on peut le faire un peu à la carte, quoi. Je crois que c'est ça les progrès qu'on peut faire, nous, du côté de positiver un petit peu les choses, c'est de dire on va accueillir chaque personne, et puis faire un état des lieux de ses difficultés, et s'adapter en fonction du moment, parce que ça peut évoluer effectivement, à ses besoins, et proposer un panel de solutions.
Au niveau des médicaments, est-ce que on peut dire aujourd'hui qu'il y en a un qui correspond à chacune des maladies psychiques qu'on peut rencontrer?
Oui, il y a des familles. Hein. C'est pas un produit seul, hein, évidemment, mais c'est une famille. Et là aussi, c'est assez simple. Il y a, je vous disais, les grandes catégories, l'anxiété, la dépression, les psychoses, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Et puis, effectivement, il y a des médicaments qui traitent ces maladies-là. Ils sont pas toujours, d'ailleurs, c'est pas toujours trivial, parce que, par exemple, on traite beaucoup l'anxiété avec des antidépresseurs aujourd'hui, alors que l'appellation ferait penser que c'est pas des bons médicaments, mais on s'est aperçu au fur et à mesure de l'expérience que certains antidépresseurs, même sans être déprimés, pouvaient bien soigner les troubles anxieux, mieux que les anxiolytiques, par exemple.
Donc là, on agit directement sur le cerveau pour...
Oui, directement, ou peut-être indirectement, pour probablement, on reste modeste, hein, parce que malheureusement, c'est une science encore en évolution, mais probablement rétablir des équilibres qui sont perturbés chez des gens qui ont une fragilité, aussi bien, je vous disais, interne, peut-être endogène, comme on dit, un petit peu constitutionnel, ou sous l'effet du stress. On sait que le stress modifie le cerveau, ça c'est maintenant une connaissance qu'on a très précisément, modifie les substances du cerveau, mais même l'architecture du cerveau. Donc les médicaments viennent rétablir ça. Et pas de manière, moi je dis souvent, pas de manière complètement artificielle au même sens, par exemple, qu'une drogue. Les drogues, ça vous rend, ça vous change réellement, malheureusement. Les médicaments, quand ça marche bien, ça vous rend votre liberté, en gros, de penser et d'agir. Donc ça vous rend vous-même, c'est ça le but. On a encore beaucoup de progrès à faire pour bien les calibrer. Je pense que les progrès qu'on a fait depuis une trentaine d'années, c'est quand même de mieux les connaître, de connaître de mieux en mieux. Et on fait des prescriptions qu'on espère raisonnables, bien pondérées, pour qu'elles soient utiles sans être néfastes.
Avec une approche assez empirique, d'après ce que vous dites, au sens
où... Ça a été longtemps empirique, et maintenant, je pense qu'on a des repères, mais ça reste individuel. C'est clair qu'il n'y a pas un programme qui s'applique à tous les patients en même temps.
Marie-Aude Mortorossa a fait quoi à partir du moment où on a identifié donc votre trouble comme étant bipolaire et qu'on vous a donné le bon médicament, comme vous disiez, qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que c'était brutal ? La différence était très importante ? Comment ça s'est passé ?
Ça m'a permis de questionner par la suite. C'est-à-dire qu'une fois que je savais que j'étais atteinte de troubles bipolaires, je me suis dit... c'est quoi la bipolarité? J'ai questionné, mon psychiatre avant tout, mais j'ai également beaucoup lu. En la FNAC, je connaissais tous les livres à ce sujet, plus ou moins scientifiques d'ailleurs, mais bon. Et j'avais besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ça, je crois que c'est très important. Et après, tout ce que j'ai pu apprendre par le biais de ces lectures, entre autres, j'ai pu mettre en pratique des tas de choses pour aller vers un rétablissement. Donc ça, c'est ce que disait Aude tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, c'est impossible de ne pas séparer le corps du mental, enfin du psychisme. C'est pour la raison pour laquelle je fais du yoga, de la méditation. Voilà, ça, c'est des choses qui me semblent importantes. J'écoute de la musique classique parce que je pense que c'est très thérapeutique aussi. Je connais mieux mes symptômes aussi. C'est quelque chose. Les premiers symptômes, quand je commence à ne plus dormir que 2 heures, au bout de 2 nuits, je me dis top, là je tire la sonnette d'alarme et je vais voir mon psychiatre tout de suite, enfin, ou je l'appelle en toute urgence parce que je sais que ça va partir en vrille, comme on dit. Donc voilà.
Ça veut dire que c'est ce qui vous arrive aujourd'hui encore ou c'est...
Non, là ça fait 6 ans que vraiment j'ai absolument pas de symptômes quels qu'ils soient. Donc voilà, c'est tant mieux pour moi.
Ces phases up and down, comme vous les appeliez, disparu.
Ont disparu depuis 6 ans.
Et vous continuez à prendre un médicament ?
Je continue néanmoins à prendre ce traitement. Alors évidemment, la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais encore besoin de ce traitement ? Mais peut-être le professeur Pilisolo peut répondre, parce que c'est des questions qui... Je sais que je ne suis pas la seule concernée à avoir ces questions-là. Récemment, il y avait un forum sur le rétablissement en santé mentale auquel j'ai participé. Et j'ai regretté que justement personne n'aborde la question de est-ce qu'à un moment des personnes en souffrance psychique vont pouvoir arrêter leur traitement et se dire
guéri quoi, en
fait. Voilà, qu'on est réellement guéri, comme avec une angine, on prend l'antibiotique 8 jours s'il faut, mais au bout d'un moment on arrête. Voilà, mais ça, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de recul dessus, mais je laisse la parole à
Antoine Pellissolo.
D'accord. Alors, je ne vais pas vous répondre personnellement,
oui, parce que
chacun est différent, mais certains troubles psychiques, dont le trouble bipolaire, si on prend ce cadre-là, ou d'autres, sont pour nous des maladies chroniques. Alors, ça veut dire au long cours, plusieurs années, voire dizaines d'années. Et on voit, ça c'est le constat, on ne peut pas avoir d'autres moyens que ça, mais on voit des personnes qui sont stabilisées pendant des années, des dizaines d'années, et qui un jour arrêtent leur traitement pour plein de raisons et qui rechutent. Donc les conseils qu'on donne, nous, pour par précaution, en le pondérant, c'est-à-dire en fonction, je dirais, de la manière dont on peut tolérer le traitement ou pas, essayer de ne pas arrêter. C'est un peu comme vous parliez des angines, c'est pas la bonne comparaison malheureusement, c'est vrai que c'est plutôt le diabète, la comparaison, comme on fait souvent, c'est un peu réducteur, mais le diabète, on n'arrête pas son insuline, mais quand on a de l'insuline, on est en bonne santé.
Oui, tout à fait.
Votre carrière.
Oui, je voulais rebondir sur ces derniers échanges quand vous parliez de quel est un peu l'état de l'art des traitements. Je pense que il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger dans le champ, c'est la reconnaissance du savoir des patients eux-mêmes sur leur troubles. C'est pas spécifique au domaine de la psychiatrie, de la santé mentale, mais il y a ce qu'on appelle le savoir basé sur l'expérience. Marie-Aude vient d'en témoigner. Elle dit voilà, je connais ma maladie, je connais les signes avant-coureurs. Et ça, je pense que cette prise en compte de ce savoir basé sur l'expérience est important aussi pour améliorer la qualité des soins. Et non seulement pour ça, mais aussi pour l'information. Et c'est pour ça que au Psychom, nous nous basons justement sur ce savoir d'expérience en travaillant avec des personnes qui vivent avec des troubles psychiques pour élaborer les documents d'information. C'est-à-dire, c'est pas seulement un avis d'expert. Et je voudrais faire un focus sur un projet récent qu'on a mené à bien, qui est, bon, en tant qu'organisme d'information, on informe sur les médicaments, évidemment, hein, sur les traitements, sur les psychothérapies, etc., mais aussi sur les médicaments. Les médicaments ne résument pas le traitement, on l'a vu, mais c'est un élément important, d'autant plus qu'il peut avoir des effets positifs, on va dire, sur les troubles, mais aussi un certain nombre d'effets indésirables. Et la question, ça va être comment on va trouver la meilleure balance bénéfice-risque pour chaque personne. Donc, on sait que c'est difficile aussi de trouver une information fiable et indépendante sur les médicaments. Il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup de choses dont on ne sait pas finalement qui produit cette information. Alors, on s'est posé la question au niveau du Psychome. Bon, nous, l'équipe n'a pas de lien d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques, donc c'était un point de départ, mais on n'avait pas forcément la compétence pour écrire des brochures. Donc on s'est rapproché de la rédaction de la revue Prescrire, donc qui est une revue indépendante des lobbies.
Oui, qu'on a invité dans cette émission déjà.
Oui, voilà. Et donc, on leur a proposé de faire ce partenariat, c'est-à-dire de pouvoir contribuer en s'appuyant sur le recueil d'expériences des personnes qui prennent des médicaments neuroleptiques, antidépresseurs, pour construire la base de brochures d'information. C'est-à-dire qu'est-ce qui, pour les personnes directement concernées, est important. Et finalement, on a, et là c'est un peu un scoop pour vous, on a deux brochures qui vont sortir le mois prochain, prendre un médicament neuroleptique et prendre un médicament antidépresseur, qui ont bénéficié de tout le circuit de production et la qualité et la garantie de prescrire.
Alors ça, peut-être un mot, Antoine Pellissolo, sur le fait que justement, la médecine ou la pharmacie ne traverse pas une phase particulièrement faste en matière de réputation vis-à-vis du grand public. Et en psychiatrie aussi, le doute existe que cette prolifération du nombre de maladies est en partie liée à la volonté de développer des médicaments, ou même des fois, ça peut être l'inverse, un médicament qui cherche une maladie. Enfin, il y a aussi un flou assez artistique et assez négatif autour de tout cela. Comment vous le ressentez, vous ?
Oui, il y a un discours en tout cas, et des inquiétudes et des réalités. Enfin, faut pas se cacher les choses. L'industrie pharmaceutique est une grosse machine et qui a des objectifs de rentabilité évidentes. Alors, des programmes ont été faits grâce aux médicaments, c'est indéniable. Il faut que ça soit encadré. Ça l'est vraiment de plus en plus. Je pense qu'on en rentre dans un modèle où je dirais l'objectivité va être renforcée. Je crois que dans la pratique réelle. En tout cas aujourd'hui, cette connaissance, je vous disais, le recul qu'on a, il est réel. Depuis une vingtaine, trentaine d'années, on a des molécules qui sont relativement stabilisées. Il n'y en a malheureusement pas beaucoup de nouvelles, c'est ça le défaut. Je crois qu'aujourd'hui, les progrès sont lents dans ce domaine-là, très lents, depuis 20, 30 ans. Les premiers médicaments qu'on utilise aujourd'hui, les psychotropes, dataient à 50 ans à peu près. Et puis depuis, il y a eu des changements assez notables. Carrière parlait des neuroleptiques. Maintenant, dans cette famille-là, qu'on appelle aussi des antipsychotiques, il y a quand même eu des bouleversements. Une vingtaine d'années.
Ce qui est surprenant, avec l'explosion de l'imagerie cérébrale. On pourrait espérer que...
Beaucoup de choses ont été trouvées par hasard, dans les années 50-60. Et puis après, malgré la technicité, on n'avance pas vite. Je crois que c'est le reflet de la complexité, vraiment, du fonctionnement cérébral. Et puis aussi, maintenant, d'une grande prudence. Hein. Alors, une des conséquences de ce que vous évoquez sur l'industrie pharmaceutique, c'est que maintenant, tout est très surveillé et on arrête très vite des projets quand on sent qu'ils vont être néfaste, hein, avec un risque pour la santé, ce qui est tout à fait pertinent, hein, mais ça explique que très vite on arrête des développements de médicaments.
Donc, des accidents comme celui qu'il y a eu il n'y a pas longtemps.
Des accidents ou même des supposés. Alors malheureusement, ce n'est pas toujours efficace, mais il y a une prudence qui est aussi, dès qu'on a un petit doute, même des effets qu'on voit chez des animaux, on arrête le médicament et on développe, ce qui est vraiment logique d'une certaine manière. Mais on a sûrement moins comme ça l'accès à des découvertes un petit peu fortuites qui pouvaient se faire il y a 50 ou 60 ans. Mais par contre, je vous disais, le progrès, c'est quand même le recul qu'on a. Et donc, les recommandations qu'on peut faire, la manière d'encadrer le traitement, de faire de l'information pour les personnes, ça, au moins, c'est positif là-dessus.
Virginie Lacombe, comment, après une dizaine de jours là, de fonctionnement de l'exposition, qui a ouvert le 5, donc on est le 15, oui. Est-ce que vous avez déjà une première sensation de la façon dont le public réagit ?
Oui, je suis allée dans l'exposition, j'ai discuté avec des visiteurs, donc on est très contents parce qu'on touche vraiment le public qu'on visait, c'est-à-dire les adolescents, puisqu'on sait que la plupart des troubles psychiques se déclenchent entre 15 et 25 ans. Donc on touche beaucoup les adolescents qui réagissent plutôt bien, qui ont des questions, enfin en discutant avec eux, qui se sentent vraiment concernés, qui ont envie de discuter, qui ont envie d'en savoir plus. Et on est très content de ça. Et puis on a également reçu des enseignants. On leur propose de venir visiter l'exposition avec un parcours qui leur permet de venir avec leur classe et puis de pouvoir ensuite faire un travail avant ou après en classe sur ce sujet qui n'est pas au programme mais qui fait partie aussi du vivre ensemble, vivre avec l'autre, accepter l'autre dans sa différence. Et voilà, donc ça marche plutôt bien.
Des associations aussi
Oui, bien sûr, on a travaillé avec différentes associations. Et puis à la Cité des Sciences, on a la chance d'avoir la Cité de la Santé, qui est un espace gratuit, où, vers laquelle on renvoie dans l'exposition pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus, qui ont une question particulière. Donc il y a des permanences d'associations, il y a des permanences aussi de professionnels, il y a des ateliers qui sont organisés, des conférences autour de l'exposition, autour de ce sujet, pour qu'il y ait une offre vraiment globale sur la thématique.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Comment vivre avec un trouble psychique ?» avec nos invités Aude Carrière, psychologue clinicienne, directrice du Psychom, Virginie Lacombe, muséographe et chef de projet à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Marie-Aude Morterolle qui a été atteinte de troubles bipolaires depuis l'âge de 25 ans et Antoine Pellissolo, psychiatre, chef de service au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor à Créteil. Je voudrais revenir, Marie-Aude Morterolle, sur votre situation actuelle, donc 25 ans d'expérience en la matière, si on peut le dire ça sous cette forme, avec ce trouble bipolaire, 6 ans donc quand même depuis lesquels vous n'êtes plus soumis aux symptômes. Donc aujourd'hui, quelles traces laisse cette maladie en vous et comment s'organise votre vie?
Alors aujourd'hui, je dirais, enfin, je sais pas si c'est le moment de le dire, mais je peux dire que j'ai juste quelques petits regrets dans ce qui aurait pu manquer par rapport à ces troubles. Bon, on peut parler d'une forme d'errance dans le diagnostic que j'ai évoqué tout à l'heure.
10 ans pour arriver à la conclusion.
Je pense aussi que ça c'est très personnel, mais il y a eu pour ma part une forme d'incompréhension quant à l'entourage familial. Quand les choses sont arrivées, ça a été un peu complexe, mais c'est pas le cas de toutes les familles, heureusement. Probablement, et ça c'est encore des choses pour lesquelles le psychom entre autres lutte, la méconnaissance des troubles dans le monde du travail. Ça je crois que c'est quelque chose qui est encore difficile aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, les choses vont bien et je suis très active dans une association qui s'appelle le Clubhouse France. Une association, un lieu d'entraide non médicalisé, ça c'est important à signaler, et qui est basé sur la cogestion et qui a pour finalité justement la réinsertion sociale et professionnelle. Donc les membres de cette association sont accompagnés vers des projets de retour à l'emploi. C'est un lieu très dynamique, donc j'y trouve beaucoup de bénéfices. Il n'y a pas que ça. J'ai une vie sociale, j'ai des amis, j'ai une vie culturelle. Enfin, je crois que tout ça c'est important et ça participe au bien-être que je trouve maintenant.
Aude Carrière, avec votre expérience donc par rapport à ces patients et à cette diversité de maladies, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque quelque chose déjà dans le dispositif d'accueil de ces patients? Et est-ce qu'il faudrait améliorer certaines prises en charge de votre point de vue?
Alors, certaines prises en charge, sans doute. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, il y a une grande diversité de pratiques, disons. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où vous habitez ou du service où vous allez aller, vous allez finalement pouvoir avoir accès à tel soin ou à tel autre. Mais il n'y a pas une égalité finalement d'accès aux soins et de qualité des soins.
Pas très harmonisé, c'est ça que vous voulez dire.
Voilà, c'est pas forcément très harmonisé. Après, ce qui manque, mais ce qui évolue aussi du côté On évoquait la peur, le tabou, etc. C'est l'information, effectivement. C'est d'avoir accès à l'information. Et je pense que la question aussi de libérer la parole. Voilà. On est sous cette chape de plomb de la peur, du tabou, etc. Et finalement, c'est en parlant, c'est en allant à l'exposition. Vous avez dit, Virginie, que les jeunes sont très motivés et sont concernés. Et voilà, créer des espaces de parole où ça puisse, où on puisse évoquer ces problèmes-là qui concernent tout le monde, sans peur.
Mais cette peur, elle concerne essentiellement les gens qui sont touchés, par exemple, pour pouvoir parler de leur troubles, comme on parle d'une
d'autre maladie. C'est ça, mais pouvoir le faire. Bon, par exemple, il y a des événements qui existent, comme les semaines d'information sur la santé mentale, qui ont eu lieu en mars, là, et qui mobilisent des milliers de personnes, en fait, en France, pendant 2 semaines, pour organiser des conférences débats, des ciné-débats, etc. Il y a eu plus de 1200 événements qui ont été organisés cette année. Donc, ça montre bien l'appétence qu'ont les personnes pour ces questions-là, les jeunes en particulier, parce que ils sont un peu aguerris, j'ai envie de dire, ils ont pu voir leurs parents avoir des problèmes comme ça, etc. Et la question, c'est savoir, bon, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, est-ce que ça peut m'arriver, où est-ce que je peux trouver de l'aide, où sont les ressources. Et les ressources, elles peuvent être, il y a un point d'écoute jeune, là, je peux aller en parler, il y a telle ressource, il y a un site internet, il y a le fil santé jeune, etc. Donc la question, ce qui peut être amélioré, c'est où trouver de l'information fiable. Voilà, donc ça, le pouvoir le faire connaître et créer ces espaces de parole. Après, je pense que par rapport à la peur, les médias ont un rôle important à jouer. Voilà. Les médias ont un rôle important à jouer. Alors, on fustige souvent les médias en disant « Ah, mais oui, mais si on a peur, c'est parce que c'est le traitement sensationnaliste qui fait vendre, etc. » Oui, mais les médias, c'est pas que ça. Les problèmes de psychiatrie, de troubles psychiques apparaissent souvent dans la rubrique « Faits divers ». Et peu souvent, comme aujourd'hui, dans une émission plus scientifique ou médicale. Donc ça, c'est un vrai constat. Donc les médias ont un rôle à jouer dans ce sens-là, c'est-à-dire de participer finalement à cette information sur les troubles, donner la parole aussi, comme vous le faites aujourd'hui, aux personnes directement concernées, favoriser le croisement des regards. Ça, c'est quelque chose qui est très positif. Et puis traiter de ces questions-là. D'une manière un peu continue et pas à l'occasion de la German Wings ou des affaires comme ça. Voilà. Donc ça peut progresser.
Merci. Antoine Pellissolo, vous êtes confronté aux patients aussi et on a l'impression que parallèlement à cet appétit de connaissance dont parlait Aude Caria à l'instant et qui se manifeste aussi dans l'exposition, il y a quand même aussi une situation qui reste assez figée où beaucoup de gens sont encore très mal à l'aise par rapport aussi bien d'ailleurs aux médicaments que à la psychothérapie et que les choses n'évoluent pas extraordinairement rapidement dans la société sur ce terrain.
Oui, ça évolue, mais sûrement pas assez vite. Je crois que les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer pour faciliter les choses et pour faire en sorte que la santé mentale, psychique, soit considérée au même titre que la santé dans son ensemble.
Vous pensez vraiment que les pouvoirs publics peuvent agir à ce niveau-là peuvent agir en général, mais à ce niveau-là en particulier.
Oui, parce que la connaissance que les personnes ont de ces problèmes-là viennent de l'éducation, parler de l'école, viennent de ce qui est proposé dans les hôpitaux, dans les services, par les médecins, etc. Et aujourd'hui, on a un très bon système de santé. Je suis pas sûr qu'on ait un très bon système de santé mentale. Il a été bien stabilisé dans les années 60 au travers des politiques de secteur. Et depuis, il a évolué de manière assez, on va dire, chaotique. Et aujourd'hui, il y a une inégalité. Il y a des gens qui n'ont pas accès à un certain nombre de choses. Il y a pas de prévention. Enfin, il y en a très peu qui soient faites, effectivement, tôt dans la vie pour comprendre comment préserver sa santé psychique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire qui passent par un effort. Alors, c'est coûteux, c'est des programmes de longue haleine, mais c'est vrai que on peut considérer que c'est une priorité. Quand on voit les sommes que vous évoquiez en démarrant sur le coût, hein, tout bêtement, c'est un critère qui vaut ce qui vaut, le coût, mais dans une société, c'est important. Quand on voit le coût de ces maladies, de retentissement, ce qu'on appelle le fardeau, on pourrait ne serait-ce que faire des économies là-dessus, ce qui serait positif. Alors, ça demande un investissement, effectivement, mais il y a un retour sur investissement, à la fois financier, mais surtout de qualité de vie et de, on va dire, tout simplement de dignité. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans une espèce de marginalisation parce que on ne rapporte pas ce dont ils pourraient avoir droit.
Alors, est-ce que vous parliez d'inégalité, est-ce qu'il y a des différences? Ça, c'est une question de Dany Journeau, donc je m'empresse de poser pour la satisfaire sa curiosité. Est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes en matière de maladies psychiques de ce type?
Alors statistiquement, pour certaines catégories de troubles, oui. Tout ce qui est dépression, troubles anxieux, oui, deux fois plus à peu près. Pour d'autres, non.
Deux fois plus, ce qui est
deux fois plus. C'est à peu près constant dans tous les pays, dans le temps. Ça a peut-être tendance à se réduire un peu, cette différence-là, mais elle a toujours existé. À part ça, d'autres affections sont plus fréquentes chez les hommes, c'est encore plutôt les addictions. Même si ça aussi ça se rapproche, mais les addictions sont plus fréquentes chez l'homme. Et puis d'autres, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire en tant que tel, sont présents de la même façon. Donc il y a sûrement plein de facteurs qui jouent, mais pour ce qui est de l'anxiété et de la dépression, sûrement des facteurs sociétaux qui font peser une pression plus forte probablement chez les femmes, par exemple en termes de souffrance, on va dire, de difficulté d'adaptation au monde.
Et là, il y a des traitements qui sont particuliers, en fait, qui, je suppose, qui sont pas sexués, du moins, en tout
cas.
Oui,
assez peu. Alors, il y a un angle qui est important, qui est celui, par exemple, des facteurs hormonaux qui peuvent jouer un peu dans ce cadre-là, où là, éventuellement, il faut rechercher des choses et éventuellement les traiter. Mais sinon, les approches sont différenciées sur le plan, évidemment, des psychothérapies, justement, tout ce qui est social. Mais a priori, on soigne aussi bien les femmes que les hommes. Et les outils, en tout cas, par exemple, médicamenteux, sont relativement similaires.
Alors on voit beaucoup de progrès faits par rapport à la connaissance, à la fois la connaissance du cerveau, mais également à l'action par l'électronique. C'est ce qui fait référence aussi à tout ce fantasme sur l'homme bionique, sur des choses qui pourraient marier le vivant et l'inerte qu'est l'électronique. Et on a entendu parler, il y a déjà un très grand nombre d'années, de l'action que pouvaient avoir des électrodes dans le cerveau pour la maladie de Parkinson, mais ça existe aussi pour traiter certaines maladies mentales. Où est-ce qu'on en est?
Alors on en est encore à des développements de recherche, hein, assez peu à des soins courants dans la vie de tous les jours, évidemment. Effectivement, c'est parti assez directement des travaux neurologiques pour la maladie de Parkinson. On s'est aperçu avec certains patients que ceux qui avaient en plus, par exemple, un trouble obsessionnel, c'est une des pathologies qui a été vite reconnue pour ça, étaient améliorés quand on faisait ce type de traitement par stimulation, donc dans le cerveau. C'est assez complexe. Il faut implanter des électrodes dans certaines zones très précises du cerveau, stimuler avec une espèce de pacemaker comme une petite pile, et avec un courant électrique très très faible, hein, évidemment ce n'est pas sensible du tout, on va modifier certaines activités cérébrales. Et on s'est aperçu que ça pouvait être une piste, alors on ne l'a pas fait au hasard, hein, ça s'est basé sur des modèles basés notamment sur l'imagerie du cerveau, on s'est aperçu que ça pouvait être efficace pour traiter certaines formes de TOC, en l'occurrence, donc troubles obsessionnels sévères, et maintenant plusieurs protocoles l'ont confirmé, et c'est une des pistes vraiment, moi je trouve, on peut dire révolutionnaire quasiment, parce qu'on a vu des malades très très handicapés. Évidemment, on prend un risque quand on le fait, puisqu'il y a une opération chirurgicale, donc on ne va pas le faire pour des personnes qui peuvent être traitées autrement, mais les personnes qui ne pouvaient pas être traitées autrement parce que tout avait échoué, et avec des conséquences très fortes sur leur vie quotidienne, ont pu être soulagées, peuvent être soulagées de manière assez marquée, alors pas tout à 100%, ça, c'est pas la solution miracle tout le temps, mais de manière majeure. Donc c'est en tout cas une piste d'avenir, parce qu'on se dit, par cette voie-là, on peut aussi espérer traiter d'autres affections. On est en train de l'étudier un peu dans certaines addictions, par exemple. Donc c'est un élément qui va peut-être compléter les dispositifs actuels. Et puis il y a heureusement des méthodes un peu moins invasives qu'on développe avec des champs magnétiques, par exemple, ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne, qui est là beaucoup moins lourde, et on peut le faire sans dommage. Donc c'est aussi une des pistes importantes.
Alors il y a tout ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, toutes les médecines qui ne sont pas chimiques, qui sont toutes les psychothérapies, là il y en a quand même. Et c'est aussi une des difficultés, j'imagine, pour les patients de s'y retrouver. Est-ce qu'il faut faire une psychothérapie, une psychanalyse, aller voir quelqu'un qui pratique l'hypnose, la méditation, on en a parlé il y a assez peu de temps dans cette émission, la méditation en pleine conscience, ça devient un univers extrêmement dense. Comment s'y retrouver? Alors là, je pose la question un peu à tout le monde. Antoine Pellissolo, déjà, peut-être?
Oui, moi je crois que ça ne devrait pas être si si compliqué. Au contraire, c'est plutôt bien d'avoir beaucoup d'outils. Je pense que là, c'est là que s'il y a une défaillance, elle est du côté des professionnels, parce qu'il suffirait que les personnes s'adressent à un professionnel qui soit conseillé à ce moment-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, qui soit suffisamment averti. Alors c'est ça qu'il faut développer, la connaissance, l'information des professionnels, pour que ça soit pas au malade de dire lui-même, ah bah tiens, c'est ça qu'il me faut. Il me faut une hypnose, il me faut de la... Parce que forcément, c'est pas leur travail.
S'ils choisissaient une opération... Ah oui.
Alors c'est vrai que c'est un peu la tendance, parce qu'il y a une offre générale, et que beaucoup de professionnels disent, moi je fais telle chose, si ça vous convient pas, aller voir quelqu'un d'autre, ce qui est quand même pas très...
Ce qui ne change rien au problème, puisque justement, là, on se retrouve face à la diversité
Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on a, là aussi, un peu de recul sur qu'est-ce qui marche plutôt bien en général, quels sont les facteurs qui sont plutôt en faveur de ça. Je crois que là-dessus aussi, on a pas mal progressé.
Alors peut-être, justement, Aude Caria.
Oui, écoutez, je vais faire un peu de une page publicité. C'est-à-dire que l'information sur les psychothérapies, par exemple, ou sur les troubles, sur un certain nombre de choses, c'est ce que propose le Psychom. On édite une trentaine de brochures d'informations. L'information est disponible aussi sur notre site internet, puisque c'est un site très généraliste qui parle à la fois des pathologies, des psychothérapies, des droits, parce que c'est un élément important, bien connaître ses droits aussi. Et en complément des aspects techniques qu'a évoqué Antoine Pellissolo, moi je pense que l'avenir il est aussi du côté des personnes directement concernées, parce que là encore, enfin j'insiste sur la notion de savoir basé sur l'expérience. Finalement, au fil de l'eau, et Mario nous l'a montré, c'est par essai erreur aussi qu'elle sait ce qui fonctionne pour elle, et de fait se développe beaucoup, et d'autant plus avec les réseaux sociaux, tout cet échange d'informations et de connaissances empiriques.
Je comprends très bien, mais est-ce que ça crée pas quand même des inégalités, justement, entre ceux qui sont capables de mener la démarche qu'a menée Mario de Morterolle, et puis d'autres qui seront peut-être plus isolés dans des situations sociales plus difficiles et qui pourront pas lire tout ce qui a été écrit sur leur trouble à la FNAC, ou consulter un grand nombre de spécialistes.
Oui.
D'où la nécessité peut-être d'avoir cet aiguillage dont parlait Antoine Bissot. C'est pas à la portée de tout le monde de s'informer, après, même à travers la documentation du Psychom.
Tout à fait. Donc d'où l'importance aussi des dispositifs grand public comme celui de l'exposition, ou des missions plus grand public, pédagogiques sur la question. Parce que effectivement, un des problèmes fondamentaux, c'est quand même la lutte contre l'isolement et contre l'exclusion. Et contre l'exclusion aussi de l'information. Mais il y a aussi un facteur d'espoir. Enfin, Mario, je me tourne vers vous, qui est vraiment du côté de l'entraide, du côté des associations de patients, du côté de ce qu'on appelle les groupes d'entraide mutuelle, qui sont vraiment des lieux qui luttent contre l'isolement social et qui permettent aux personnes de discuter entre elles à la fois de leurs problèmes et des solutions qu'elles ont trouvées.
Voilà. Oui, alors vous citiez, Mario de Morterolle, tout à l'heure, ce Clubhouse, mm-hmm, qui joue ce rôle un petit peu.
Oui, tout à fait. Je pense que le rôle entre pairs, il est important là-bas aussi. Ouais. Absolument, on peut... c'est pas forcément le but non plus de cette association, mais n'empêche que entre deux portes ou sur la terrasse en fumant une cigarette, on va discuter avec l'un ou l'autre et parler de la thérapie cognitive et comportementale que l'un fait, de groupes de psychoéducation que l'autre fait, et je pense que ça peut donner des pistes à l'un ou à l'autre, quoi. Et ça, c'est vrai que ça, c'est très important.
Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aussi changer l'image générale de la psychiatrie? On voit assez peu, on parlait avant l'émission de vol au-dessus d'un nid de coucou. Effectivement, ça n'a pas laissé une trace hyper positive dans l'esprit des gens. Il y a assez peu de cas de maladie mentale dans les films ou dans les séries qui sont proposées aujourd'hui. À part une, dont j'ai oublié le titre malheureusement, et qui met en scène un enquêteur surdoué qui a visiblement un vrai problème. C'est assez rare de cette mise en scène.
Oui, alors c'est vraiment cette communication qu'on essaie de faire, de développer, pour non pas banaliser, hein, le but c'est pas de dire que c'est rien d'avoir un trouble psychique, mais au moins de familiariser. Voilà. Donc c'est une image qu'on peut espérer plus positive, effectivement, de la spécialité.
Très bien, en attendant, le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Aude Caria, Virginie Lacombe, Marie-Aude Morterolle et Antoine Pellissolo d'avoir participé à cette émission. Vous trouverez sur le site de l'émission des liens avec l'exposition à la Cité des Sciences et avec des organismes comme évidemment le Psychom. Nous vous recommandons également les ouvrages écrits par nos invités, Retrouver l'espoir, abécédaire de psychiatrie positive d'Antoine Pellissolo, publié chez Odile Jacob en mars 2016, ainsi que celui de Mario de Morterolles intitulé Vivre tue et qui est édité chez Edilivre en 2014. Sur notre site, vous pouvez également visionner une courte vidéo qui présente l'exposition Mental Désordre et réécouter cette émission pendant 1 000 jours, la podcaster pendant un an et bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. C'est possible tout en bas de la page de Science Publique. La semaine prochaine, vendredi 22 avril, Science Publique vous proposera la dernière émission de la semaine que les émissions de Culture Science consacrent au thème de la catastrophe. À l'occasion des 30 ans de l'accident de Tchernobyl, nous reviendrons sur l'impact des radiations sur la nature, qu'il s'agisse des hommes, des animaux ou des plantes. De façon surprenante, la vie n'a pas totalement disparu de la région de la centrale de Tchernobyl, preuve que la biologie dispose de ressources étonnantes qui lui permettent de résister à l'agression extrême de ces radiations qui détruisent l'ADN. Nous tenterons de comprendre comment les êtres vivants peuvent vivre 30 ans après à Tchernobyl avec nos invités Galia Ackermann, Yves Lenoir, Anders Moller et Yannick Monger. Science Publique, Dany Journeau, Jean-Guy Lemège, Marie Dalquier, Michel Albergantier.